Dans 3 jours, nous allons célébrer la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie et nous sommes avec l'abbé Philippe Baïtia. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chancelier du diocèse et responsable du service diocésain de pastorale liturgique et sacramentelle et nous proposons à nos auditeurs, pour nous préparer à cette fête du 15 août, 3 émissions autour de la Vierge Marie. Une première émission aujourd'hui qui sera consacrée à Marie dans l'Évangile. Une seconde émission Marie à travers l'histoire dans l'Église. Et puis une troisième émission qui sera plus consacrée au texte liturgique de la fête de l'Assomption et au dogme de l'Assomption de la Vierge Marie. Alors Marie dans l'Évangile, finalement, on en parle peu.
Écoutez, si vous dites le chapelet par exemple, si vous dites les mystères joyeux, l'Annonciation, la Visitation, la naissance de Jésus, la présentation au Temple, le recouvrement de Jésus, après la petite fugue à Jérusalem, si on peut dire, bon, il y a la présence de la Vierge Marie. Chez Saint Marc, ben, on voit qu'il y a une petite expédition pour récupérer Jésus, parce que sa famille trouve que sûrement il en fait trop. Et donc, ben, on a aussi pris la Vierge Marie avec, quoi. Également, il y a l'éloge de cette femme heureuse, heureux le ventre qui t'ont porté et les seins qui t'ont allaité. C'est le texte un peu mot à mot, bon, la traduction liturgique est peut-être plus élégante. Bon, donc, cette femme bien, voilà, fait l'éloge de la Vierge, tandis que Jésus va faire l'éloge ben, voilà, de ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Et aussi, bien sûr. On voit la Vierge Marie au pied de la croix. Elle se tenait debout, nous dit Saint Jean, et le fameux dialogue « Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère ». Et si on quitte un tout petit peu l'Évangile, la dernière fois que l'on voit Marie dans l'Écriture, enfin, c'est voilà, au moment, dans l'attente de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Bon, là, on est dans les mystères glorieux, voilà, la Pentecôte. Et peut-être aussi dans le 12e chapitre de l'Apocalypse, voilà, la femme voilà, revêtue du soleil, ayant la lune sous les pieds, ayant une couronne de 12 étoiles qu'on interprète. Bon, elle donne naissance au Messie, c'est bien la Vierge. Mais aussi on interprète cette femme comme étant la figure de l'Église.
Donc tous les évangélistes parlent de la Vierge Marie ?
Oui, de fait. Mais plus...
C'est plutôt Luc.
Matthieu et Luc... Bon, j'ai aussi oublié l'adoration des mages. Bon,
l'enfant. Et les noces de Cana aussi.
Les noces de Cana. Matthieu en parle, Luc en parle, Marc rapidement, et Jean en parle effectivement, comme vous le disiez, les noces de Cana et Marie au pied de la croix.
Dans l'évangile de Luc, c'est celui qui en parle le plus, on nous raconte finalement toute l'enfance de Jésus et... toute la réponse de Marie à l'action de Dieu.
Enfin, on ne nous raconte pas toute l'enfance de Jésus. On nous raconte quelques épisodes. Après, les évangiles apocryphes ont brodé sur l'enfance de Jésus. Enfin, on nous raconte, bien sûr, concernant la Vierge, l'Annonciation, la Visitation, la naissance de Jésus, et puis, effectivement, donc, la présentation de Jésus au Temple, et donc le recouvrement de Jésus. Ça, voilà. Il semblerait d'ailleurs, Luc dit au début de son évangile, qu'il s'est informé auprès de témoins. Il y a des choses que seule la Vierge connaissait et que sûrement Luc a transcrit.
Est-ce que l'on sait l'âge de la Vierge Marie quand elle a eu Jésus ?
Ben, à cette époque-là, les jeunes filles se mariaient jeunes, 15-16 ans, voilà, quand elles étaient nubiles. Donc on peut imaginer que Marie n'a pas dérogé à la règle. Elle était mariée, nous dit l'Écriture, avec Joseph. On peut penser donc qu'elle était quand même une jeune fille, une très jeune femme malgré tout.
Oh, il y a cet épisode de l'Annonciation où l'ange Gabriel va annoncer à Marie qu'elle sera mère. Qu'est-ce qu'on peut en retirer de cet épisode biblique ?
Alors, quand l'ange apparaît à la Vierge et qu'il lui fait la proposition de Dieu, l'ange, dans les paroles qu'il dit, lui fait comprendre que cet enfant sera le fils du Très-Haut, qu'il siégera sur le trône de David son père et que son règne n'aura pas de fin. Or, À ces paroles-là, il siégera sur le trône de David son père et son règne n'aura pas de fin. On les retrouve dans des promesses faites autrefois au roi David, reprises dans d'autres textes de l'Écriture. Donc, l'ange lui fait comprendre, lui demande, si elle veut être la mère de ce Messie que Dieu a promis à David et qu'il a promis à Israël. Voilà ce qu'elle comprend. La Vierge a du caractère, parce qu'elle va dialoguer avec l'ange. Elle a l'idée de se donner à Dieu dans la virginité. D'où la question, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ? Voilà. La Vierge a du caractère. Et quand on regarde, mettons, des peintures d'un peintre français, Philippe de Champaigne, quand on regarde le visage de la Vierge, bon, il a illustré ces épisodes, on voit que c'est le visage d'une femme déterminée.
Quand vous dites ça, on peut s'étonner parce que souvent la représentation de la Vierge Marie dans nos églises, c'est une femme qui a les mains jointes, les yeux levés vers le ciel, avec un visage un peu doucereux. Est-ce que c'est finalement une bonne représentation de la Vierge Marie ?
Quand vous lisez le Magnificat, vous voyez que la Vierge ne s'inscrit pas dans cette figure-là, quoi. Voilà, puisque voilà, elle voit les puissants que Dieu détrône, les orgueilleux qui sont chassés, les humbles qui sont élevés. Et le pape Paul VI, dans Marialis Cultus, du 2 février 1974, nous dit que Marie, de ce point de vue-là, peut être un modèle pour les femmes d'aujourd'hui.
À ce propos, vous voulez nous partager aussi ce texte du saint pape Paul VI, publié en 1974.
Bon, je vous lis ce texte, qui est très dense, et qui situe, si on peut dire, la Vierge Marie un peu dans les préoccupations actuelles. Voilà ce qu'écrit dans Marialis Cultus au numéro 37, le saint pape Paul VI. On constatera avec une joyeuse surprise que Marie de Nazareth, tout en étant totalement abandonnée à la volonté du Seigneur, ne fut pas du tout une femme passivement soumise ou d'une religiosité aliénante, mais la femme qui ne craignit pas de proclamer que Dieu est celui qui relève les humbles et les opprimés et renverse de leur trône les puissants du monde. On reconnaîtra en Marie, qui occupe la première place parmi les humbles et les pauvres du Seigneur, une femme forte qui connut la pauvreté et la souffrance, la fuite et l'exil, situations qui ne peuvent échapper à l'attention de celui qui veut seconder par l'esprit évangélique les forces de libération contenues dans l'homme et dans la société. Ainsi, Marie n'apparaîtra pas comme une mère jalousement repliée sur son divin fils, mais comme la femme qui, par son action, favorisa la foi au Christ de la communauté apostolique, et dont le rôle maternel s'étendit en prenant au calvaire des dimensions universelles. Ce ne sont que des exemples. Ils manifestent cependant de façon claire que la figure de la Vierge ne déçoit aucune des attentes profondes des hommes de notre temps et leur offre un modèle achevé du disciple du Seigneur, artisan de la cité terrestre et temporelle, mais pèlerin qui se hâte vers la cité céleste et éternelle, promoteur de la justice qui délivre l'opprimé, et de la charité qui porte secours aux nécessités, mais par-dessus tout, témoin actif de l'amour qui édifie le Christ dans les cœurs.
Parlons de Marie au pied de la croix, quand son fils est crucifié, il y a donc un échange entre elle et son fils,
oui,
que nous relate saint Jean.
Il y a d'abord le fait qu'elle se tient debout au pied de la croix. Ça n'a pas dû être rien, on pense que Marie est veuve à ce moment-là. Et ce n'est pas rien. Ça veut dire qu'elle perd son fils unique et qu'elle se tient au pied de la croix, le supplice le plus méprisé dans la culture romaine de l'époque, comme la mère non seulement d'un condamné à mort, mais d'un maudit selon la loi de Moïse. Et très sûrement qu'on a dû l'injurier et ce genre de choses, même si l'Écriture ne le dit pas. Donc là aussi, on voit la force d'âme de la Vierge. Parfois, des peintres l'ont représentée s'évanouissant. Le Saint-Siège a condamné ces représentations. Stabat, dit le texte latin, elle se tient debout physiquement, spirituellement et moralement. Elle se tient debout pour accompagner son fils dans le mystère de cette mort ignominieuse qu'est la croix, mais aussi pour l'accompagner dans son œuvre de salut. Du côté de Jésus, si je puis dire, il se rend compte que sa mère, sans le fils unique, c'est une femme seule. Donc, il la confie à Jean. Mais l'évangéliste, quand il relate cette affaire, voit que le regard du Christ va plus loin que ça. Marie est confiée à Jean, et Jean est confié à Marie. Ça veut dire que, pour Jésus, sa mère devient, elle qui est sa mère selon la chair et aussi selon l'esprit, que sa mère devient la mère de tous ses disciples. Et Jean accueillant Marie, c'est l'Église qui accueille la mère de Dieu dans sa vie.
Marie, mère de l'Église, ce sera justement le thème de notre deuxième rencontre. Nous vous retrouvons demain à la même heure pour nous préparer à la fête du 15 août. Merci Abbé Philippe Beitia.